Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, ils étaient accusés de longue date de financer la junte au pouvoir en Birmanie. Les groupes pétroliers Chevron et Total se retirent du pays. Franck Madvon nous raconte dans un instant. Vers l'allègement des mesures anti-Covid début février en France, le gouvernement ne fixe pas de conditions précises, hospitalisation ou taux d'incidence. Comment expliquer ce choix ? Analyse. Écoles et hôpitaux sont toujours sous pression. 19 000 classes fermées, c'est un record. Et en Haute-Savoie, deux vagues à affronter pour les soignants. Le Covid et les blessés du ski. Dans ce journal encore, la résistance aux antibiotiques, c'est plus d'un million de morts dans le monde en 2019. Nouveau rapport, nous en parlons avec un professeur d'infectiologie. Des tirs à balles réelles sur les gendarmes lors d'une manifestation anti-vaccin obligatoire en Guadeloupe. Un gendarme blessé au genou. Et puis les négociations salariales rompues dans le secteur de la coiffure. Il y a un gros manque de main-d'œuvre dans ce secteur. À 13h30, cette question, le nouveau bac nuit-il aux maths ? Moins de lycéens choisissent la discipline. Chute des heures enseignées. Alors lycéens ou parents de lycéens, je vous attends au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter rubrique Réagir. Les inscriptions à Parcoursup sont ouvertes depuis hier. Les nuits de la lecture ont commencé hier également un peu partout en France. Parmi les parrains, le romancier François-Henri Désérable.
Un livre que j'offre beaucoup, c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas ou Le Parfum de Suskind, D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Souvent, grâce à ces livres-là, j'ai pu faire en sorte que des gens qui ne lisaient pas se soient mis à lire.
Reportage tout à l'heure de la lecture à la musique. Adieu au rocker Meat Loaf, un nouvel album de reprise de Goldman. Et nous écouterons Aurel San dans C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Cela fera bientôt un an que les militaires ont repris le pouvoir en Birmanie à la faveur d'un coup d'État. Le bilan est très lourd. On estime que près de 1500 civils ont été tués au fil des mois par la junte qui réprime toute contestation. Le prix Nobel de la paix, ancienne dirigeante du pays, Aung San Suu Kyi, est assignée à résidence. Elle est condamnée à la prison sous toute une série de prétextes. Et dans ce cadre, l'entreprise française Total pouvait-elle continuer de travailler comme si de rien n'était en Birmanie ? En mai dernier, une enquête du journal Le Monde accusait Total de contribuer à financer la junte via l'exploitation d'un gisement de gaz. Hier encore, l'organisation Human Rights Watch appelait Europe et États-Unis à cibler les fonds qui financent le régime. Cela fait des années que Total est sous pression. Et bien ce matin, Franck Madvon, le groupe annonce son retrait de Birmanie.
Total Energy avait jusqu'ici un argument, Bruno, pour rester en Birmanie. Le champ de gaz de Yadana en mer d'Andaman est considéré comme essentiel à l'alimentation en électricité des populations locale. Cet argument ne suffit plus. Depuis le coup d'État du 1er février, la Birmanie s'est enfoncée dans la crise. Vous l'avez dit, les violations des droits de l'homme sont quotidiennes. Face à la répression, des militants pro-démocratie ont pris les armes. Et Total fait aujourd'hui le constat que la situation ne cesse de se dégrader selon son communiqué et n'a donc d'autre choix que de se retirer. Ce sera effectif dans 6 mois, la durée du préavis, et sans contrepartie financière, précise le groupe. Cette annonce marque un tournant pour Bénédicte Jeannerot, directrice de Human Rights Watch France.
La décision totale de se retirer de Birmanie est bienvenue et représente un développement majeur. Elle reflète l'importance d'éviter toute complicité dans les atrocités qui sont commises par la junte en Birmanie. Et elle intervient après des décennies d'opérations gazières en Birmanie qui ont procuré d'immenses revenus à des autorités responsables de terribles abus. Et maintenant, la prochaine étape consiste à s'assurer que les revenus du gaz ne continuent pas à financer leurs crimes contre l'humanité.
Human Rights Watch appelle ainsi les Occidentaux à mettre en place des sanctions qui priveraient la junte au pouvoir de tout revenu issu du gaz. Des questions restent toutefois en suspens à Yadana. L'américain Chevron se retire aussi de ce champ gazier, on le disait. À qui reviendront ses parts et celles de Total, soit près de 60% du capital. Les autres partenaires pourraient en hériter, dont l'entreprise publique détenue par l'armée birmane.
En Syrie, combien de djihadistes se sont échappés de la prison d'Assaké dans le nord-est du pays ? L'organisation État islamique a attaqué la prison, faisant 18 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Quant à la Chine, elle se dit fermement opposée au vote d'hier à l'Assemblée nationale à Paris. Les députés français qualifient de génocide et de violence constitutive de crime contre l'humanité le traitement des Ouïghours, la minorité musulmane du nord-ouest. Vote à la quasi-unanimité, abstention de la France insoumise. Dans deux semaines commencent les Jeux Olympiques de Pékin. Les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, pas la France, ont annoncé un boycott diplomatique des Jeux. Pas d'officiel aux cérémonies, mais leurs sportifs participeront bien aux compétitions. sportifs qui sont embarrassés. D'un côté, les violations des droits de l'homme en Chine, de l'autre, les JO, épreuve d'une vie, surtout dans des disciplines peu médiatisées, comme beaucoup de celles qui figurent au programme des Jeux d'hiver. L'ONG Human Rights Watch, encore elle, les invitait à s'exprimer hier lors d'une conférence de presse mondiale, Nathanaël Charbonnier.
Il s'appelle Noah Hoffman, il est américain, skieur nordique, et pour lui, il est impossible de faire porter la responsabilité politique des Jeux sur le dos des athlètes, tout comme il leur est impossible de ne pas participer à la compétition.
C'est faux de dire que les athlètes peuvent choisir d'aller ou non aux JO. Nos carrières en dépendent, nos sponsors en dépendent, le soutien de nos nations en dépend, tout cela en dépend.
Il s'appelle Craig Foster, c'est un ancien champion australien et il est en colère contre le comité olympique à qui il demande de mieux choisir à l'avenir les pays qui accueilleront les Jeux.
Le boycott diplomatique n'a aucune valeur si le CIO refait la même chose dans 4 ans. Ce n'est pas acceptable. Il ne doit pas mettre ni nous, ni les athlètes dans cette situation.
Et le choix du pays est capital car à ce jour, personne ne peut garantir la sécurité des sportifs en Chine. Bénédicte Jeanneraud, Human Rights Watch en France.
Il y a une pression extrêmement forte qui va peser contre les athlètes et un certain nombre expriment leur inquiétude à être sanctionnés par les autorités chinoises au cas où ils diraient des choses qui déplairaient aux autorités de Pékin.
Et pour faire pression, l'ONG plaide pour le boycott diplomatique des Jeux. La France ne l'envisage pas, contrairement aux États-Unis, à l'Australie, au Canada ou encore au Royaume-Uni.
Les premiers échos de la rencontre Blinken-Lavrov, les chefs des diplomaties américaines et russes à Genève, alors que les Russes ont massé des soldats à la frontière ukrainienne. Anthony Blinken promet aux Russes une réponse unie, rapide et sévère en cas d'invasion de l'Ukraine. Quant à Lavrov, le chef de la diplomatie russe, il affirme que son pays n'a jamais menacé le peuple ukrainien. Il attend une réponse à ses exigences la semaine prochaine. Les exigences de Moscou, c'est le retrait des troupes américaines de l'OTAN, d'Europe de l'Est, Roumanie et Bulgarie en particulier. Lavrov qui espère encore que l'émotion va retomber après des pourparlers qu'il qualifie de francs. En Grande-Bretagne, 33 000 soignants du système de santé public ont démissionné au fil de l'été dernier, 2 fois plus qu'avant la pandémie. Le Covid pèse sur le moral, mais le Premier ministre Boris Johnson fait le pari que la sortie du tunnel est proche. Il a annoncé cette semaine la levée de la plupart des restrictions. Allègement en France aussi, on y revient dans un instant, et une forme de pari là aussi, car si le niveau de contamination reste extrêmement élevé, 425 000 annoncés hier, à l'hôpital, le nombre de patients en soins critiques est en légère baisse sous les 3 900, mais la courbe reste à la hausse pour les admissions à l'hôpital en général, près de 28 000 patients. Et dans les régions de montagne, au Covid s'ajoutent les blessés du ski. En Haute-Savoie, où le taux d'incidence est parmi les plus élevés de France, plus de 4 000. Écoutez Gianluca Samarani, c'est le chef du pôle chirurgie soins critiques à l'hôpital de Sallanches.
C'est la première fois depuis 2 ans qu'on fait face à 2 vagues en même temps. La vague des Covid d'un côté et la vague liée à tout ce qui est sport d'hiver, hein, et cette fois les pistes sont ouvertes. Par conséquent, on a beaucoup de traumatologie mais aussi beaucoup de autres urgences non traumatologiques, les appendicites, les occlusions qui arrivent au bloc opératoire. Et c'est les mêmes personnels qui s'en occupent. C'est des gens qui peuvent partir en vacances avec l'idée d'être rappelés. C'est une tension continue. Parce que là, maintenant, on a dû fermer des salles d'opération pour transférer notre personnel en réanimation pour s'occuper des patients Covid. Dans la durée, c'est un gros challenge.
Propos recueillis par François Ventejoux de France Bleu Pays de Savoie. Les hôpitaux toujours sous pression. Les établissements scolaires aussi. Près de 19 000 classes fermées. 18 786 précisément. C'est un record depuis le début de la pandémie, hors des périodes de fermeture des écoles évidemment. Près de 4% des élèves testés positifs cette semaine, 2,5% pour le personnel. Et pourtant, c'est bien un allègement des restrictions qu'a annoncé hier Jean Castex. À partir du mercredi 2 février, fin des jauges dans les grands établissements qui accueillent du public, comme les stades et les salles de concert, fin du masque obligatoire en extérieur. Et à partir du 16 février, discothèque ouverte, les concerts debout, le pop-corn au cinéma, le sandwich dans le train et l'œuf maillot debout au comptoir des cafés. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Particularité de ces annonces, le Premier ministre, suivi hier par plus de 8 millions et demi de personnes lors de sa conférence de presse, n'a pas soumis cet allègement à un critère hospitalisation ou taux d'incidence. Comment on explique ce choix ?
Eh bien, tout d'abord parce qu'Omicron a tout changé, au point que certains indicateurs comme l'incidence ou le nombre de cas positifs quotidiens ne veulent plus rien dire. dire. Vous l'avez peut-être oublié, mais fin 2020, le gouvernement s'était fixé l'objectif de 5000 cas par jour pour lancer le deuxième déconfinement. Un chiffre qui paraît aujourd'hui complètement ridicule. Hier encore, 425 000 personnes ont été testées positives. La moyenne est à plus de 300 000 sur une semaine. Même le Conseil scientifique, dans son dernier avis publié hier et intitulé « Omicron, une vague très différente des précédentes », ne fixe aucun seuil. Selon ses membres, entre 9 et 14 millions de personnes auraient été infectées par le variant en 2 mois. Heureusement, sans que cela n'ait un impact sur les hospitalisations, comme aurait pu le provoquer un précédent variant. Là encore, la tendance est plutôt à l'optimisme. Le Conseil scientifique estime qu'avec la moindre gravité d'Omicron, le système de soins va certes rester en très grande tension jusqu'à mi-mars, mais devrait globalement tenir. L'autre indicateur sur lequel s'appuie l'exécutif, c'est ce qui se passe chez notre voisine d'outre-Manche. La Grande-Bretagne a vu son pic de contamination franchi début janvier. La courbe y redescend tout aussi brusquement qu'elle n'est montée et les hospitalisations sont en légère baisse.
Le pass vaccinal doit entrer en vigueur lundi, sauf si le Conseil constitutionnel s'y oppose. Réponse cet après-midi. Et le Conseil scientifique appelle également à poursuivre la stratégie de l'utilisation large de tests. La grande distribution a vendu près de 17 millions d'autotests entre la fin décembre et la mi-janvier, selon un institut qui étudie les ventes des supermarchés. Quant aux nouvelles règles qui s'appliqueront au plan national le mois prochain, elles concernent aussi le télétravail, qui redevient recommandé et non plus obligatoire à partir du 2 février, toujours 3 à 4 jours par semaine. Depuis le début de la pandémie, beaucoup d'entre vous ont expérimenté à la fois le plaisir et les difficultés du télétravail. Certains ont la chance d'avoir un peu plus de moyens financiers que d'autres pour s'organiser, des sous de côté et de la place dans un jardin. Une entreprise propose des chalets studios entre 15 et 30 mètres carrés. Reportage près de Valenciennes de Rafaela Birivicente de France Bleu Nord. Elle est avec Guillaume qui vit à Famars.
Après avoir travaillé dans sa chambre à coucher pendant de longues journées, l'ingénieur chez Valourec, papa de 2 enfants de 5 et 14 ans, commence avec joie ses 4 jours de télétravail hebdomadaire dans son bureau où il a pu installer ses 2 écrans, son territoire dédié.
C'est bien, c'est obligatoire parce que c'est très stressant de se retrouver dans une réunion et d'avoir les enfants qui peuvent être derrière, qui peuvent ne pas comprendre que papa est au travail. Donc là, ça permet vraiment d'avoir cette distinction.
Le bureau cube, installé très rapidement sans avoir besoin de permis de construire, est accolé à la maison, mais le fait d'avoir même quelques mètres seulement pour rentrer chez lui est important psychologiquement pour couper.
D'ouvrir la porte et de sortir, faire une meilleure scission entre télétravail et la vie personnelle. Quand j'ai fini mon télétravail, je ferme la porte comme je quitterai le travail et j'ai pas la tentation de me remettre sur mon micro et d'aller regarder à nouveau mes mails et de replonger dedans. Ça permet de retrouver un rythme et aussi des horaires qui vont avec une vie travail normale.
Et contrairement à la chambre à coucher, la vue sur le jardin avec la grande baie vitrée est plutôt sympa.
Ma vue, c'est la soupente. Donc dans la soupente, j'ai un peu de lumière du Velux, mais je vois pas forcément ce qui s'y passe non plus. Donc là, ça me permet de voir aussi le monde extérieur.
Grégory pense que c'est un bon investissement car le studio lui permettra aussi de s'isoler pour faire ses papiers personnels, à sa collégienne de fille de faire ses devoirs tranquillement et il pourra même se transformer en chambre d'amis au besoin.
Voilà pour un télétravail plus confortable à l'étranger. Dernière information à la rubrique Covid. Le Parlement autrichien a adopté hier la vaccination obligatoire pour les adultes, entrée en vigueur prévue le 4 février. Toujours à la rubrique santé, la perte d'efficacité des antibiotiques a provoqué la mort de près d'1 300 000 personnes dans le monde en 2019. Un nouveau rapport alarmant est publié dans la revue scientifique de Lancet. Le problème est identifié depuis longtemps. Est-il en train de prendre de l'ampleur, cette question de l'antibiorésistance? Et qu'en est-il en France? Pour en parler avec nous, le professeur Pierre Tadevin. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Président de la Société de pathologie infectieuse de langue française et infectiologue au CHU de Rennes. Question simple d'abord, antibiorésistance, qu'est-ce que cela signifie, professeur?
Ça signifie que des bactéries qui étaient accessibles à un traitement antibiotique relativement simple deviennent compliquées à traiter et à l'extrême impossibles à traiter.
Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de maladies, alors pas forcément en France, on parle de la France dans un instant, mais qu'on a du mal, plus de mal qu'il y a quelques années à soigner. Quelques exemples?
Ce qui raconte bien dans l'étude dont vous avez parlé, là, c'est qu'il y a dans des pays où ils n'ont pas accès à tous les antibiotiques nécessaires et où les résistances ont beaucoup augmenté au cours des dernières années, parfois des médicaments contre les méningites à pneumocoque résistants, par exemple, ou les infections urinaires avec des Escherichia coli multirésistants ne sont pas disponibles. Et les gens peuvent décéder à cause de la résistance.
Les antibiotiques servent contre les infections, donc c'est toutes les maladies où il y a des risques d'infection qui sont potentiellement concernés, les greffes d'organes, les chimios et les soins intensifs aussi, par exemple.
Alors, les antibiotiques ne marchent que sur les bactéries, ça ne marche pas sur le Covid, par exemple.
Oui.
Donc, c'est ces maladies-là qui peuvent être concernées par la résistance. Mais effectivement, si en plus on est fragilisé par une greffe d'organes, on dépend complètement des antibiotiques pour guérir. Et c'est dans ces situations-là que la résistance aux antibiotiques est encore plus problématique.
Et vous avez vous-même rencontré, passons à la France, des cas où on ne sait plus comment soigner des patients parce qu'il y a antibiorésistance.
Alors la France essaye de faire beaucoup d'efforts pour mieux consommer les antibiotiques depuis plus de 10 ans, là, ce qui fait qu'on a quand même des pratiques qui se sont améliorées. Et du coup, la résistance aux antibiotiques en France, même si elle a augmenté et même si elle est préoccupante, n'a pas atteint des niveaux comme on peut voir en Europe du Sud. Donc c'est vraiment très rare en France qu'on n'arrive pas à traiter une bactérie multirésistante.
Ça veut dire que le message, on connaît tous le slogan, les antibiotiques, c'est pas automatique, ce message est passé à la fois auprès des médecins généralistes et des patients qui quelquefois font pression auprès des généralistes pour avoir des antibiotiques.
Il est passé par moment, il a eu un impact, mais bien sûr, il n'est pas suffisamment passé. On consomme encore beaucoup trop d'antibiotiques. On en consomme 3 fois plus qu'aux Pays-Bas, par exemple. Un Français dans sa vie consomme 3 fois plus d'antibiotiques qu'un Hollandais, alors que l'espérance de vie est la même et qu'ils sont en forme. Donc on pourrait consommer moins et consommer mieux.
Pourquoi cette particularité française ?
Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que les médecins français probablement aiment bien avoir la liberté de prescription, donc ont tendance à essayer de suivre un peu moins probablement les recommandations de bon usage des antibiotiques. Il y a aussi probablement des situations où c'est les patients ou les parents des enfants qui sont très demandeurs. On manque sans doute un peu de discipline, mais on a fait vraiment des progrès les dernières années.
Est-ce que vous vous dites, professeur, qu'il y a un côté, vie moderne dans cette résistance aux antibiotiques? Au fond, quand un enfant est malade, qu'on doit travailler, les antibiotiques, ça soigne facilement, rapidement, comme si notre société n'avait plus le temps d'attendre que les virus partent d'eux-mêmes, en quelque sorte.
Oui, effectivement, c'est à la fois notre société de consommation, on veut toujours pour tout des traitements, des médicaments, et puis aussi probablement qu'on respecte moins l'écologie qu'on a fait auparavant. Et ça fait partie de l'écologie aussi, le fait de pas consommer les antibiotiques, de pas perturber les flores tout le temps.
Certains d'entre nous ont vu récemment des médecins utiliser des tests justement pour une angine, pour éviter l'utilisation inutile d'antibiotiques. Ça se pratique pour les angines et pour d'autres maladies de plus en plus ?
Oui, c'est une des pistes pour essayer de mieux utiliser les antibiotiques, c'est d'avoir un test rapide qui permette de dire au cabinet du généraliste tel patient a besoin d'un antibiotique, tel patient n'a pas besoin. Les bandelettes urinaires servent à ça aussi. Et effectivement, c'est un pas en avant.
Merci, professeur Tadevin, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Vous qui êtes président de la Société de pathologie infectieuse de langue française.
France Inter, le journal de 13h.
Nous en venons à la campagne présidentielle à 79 jours du premier tour. La photo du jour, ce sera au Puy-en-Velay cet après-midi. Laurent Wauquiez, ancien président des Républicains, aux côtés de Valérie Pécresse. À gauche, après Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, Anne Hidalgo demande à son tour que son nom soit retiré de la liste des candidats à la primaire populaire qui se tiendra en fin de semaine prochaine. Et invité de nos confrères de France Info, la maire de Paris plaide une nouvelle fois pour la suppression de Parcoursup.
Pourquoi supprimer Parcoursup ? Parce que là encore, c'est vraiment à l'image de ce que ce gouvernement fait depuis 5 ans maintenant. Un système totalement inhumain qui met en stress non seulement les jeunes, les familles, un algorithme qui choisit votre vie. Et on ne comprend pas du tout, parce que tout ça est quand même très opaque, pourquoi vous avez telle orientation et pas telle autre. Je le remplace par quoi ? Par un système humain d'accompagnement des jeunes dans leur orientation, des conseillers d'orientation, des enseignants formés, des possibilités aussi ouverte plus grande d'avoir un contact avec le monde du travail. Le stage de troisième ne suffit pas à établir ce lien-là. Et puis, je mise sur l'enseignement supérieur. Il y aura bien sûr plus d'ouverture de places dans les universités. On se fixe un objectif de 60% d'une classe d'âge pouvant aller vers l'enseignement supérieur.
Mais les inscriptions à Parcoursup ont débuté hier à 13h30 avec nos invités. Question pour les lycéens et leurs parents. Le nouveau bac fait-il du mal aux maths? Depuis la réforme du lycée, le nombre d'heures de maths enseignées a baissé de 20%.
entre un enseignement de spécialisation trop relevé ou rien du tout. Beaucoup d'élèves manquent d'un moyen terme. Le nouveau bac et les maths, j'attends vos questions et réflexions. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Et ce problème de maths, sans couper les cheveux en quatre, sachant que le secteur de la coiffure souffre d'une pénurie de main-d'œuvre de 15 à 20% des effectifs, de combien faut-il augmenter les salaires pour attirer du monde? Plus 0,2% pour ceux qui sont payés au-dessus du SMIC, répondent les employeurs. C'est très insuffisant, répondent les syndicats qui suspendent leur participation aux négociations. Le secteur de la coiffure est à la fois l'un de ceux où la pénurie de main-d'œuvre est aiguë et où, selon le ministère du Travail, le dialogue social est défaillant. Écoutez Stéphanie Pratt-Emeric, elle est la secrétaire fédérale en charge de la coiffure pour le syndicat rattaché à Force ouvrière majoritaire dans le secteur.
La problématique dans la négociation dans la coiffure, c'est qu'il n'y a pas de négociation. Une négociation, on doit faire évoluer les choses. Et là, c'est à prendre ou à laisser. Aujourd'hui, ce qui nous a été proposé par les organisations patronales n'est pas entendable. Du fait qu'ils nous proposent sur le niveau 1, échelon 1, 0,2% au-dessus du SMIC. Et après, ils tassent la grille des salaires. Du coup, il n'y a plus de valorisation entre les diplômes et entre l'évolution des salariés. Ils ne veulent rien entendre. Ils ne parlent que baisser la TVA et baisser les charges sociales. Mais à un moment donné, c'est pas sur ce levier-là qu'on va réussir à faire évoluer la profession. Aujourd'hui, c'est une branche qui est en tension, où il n'y a pas d'attractivité. Ça demande beaucoup d'investissement personnel. Il n'y a pas de week-end en famille. Tout ça pour un SMIC.
Un propos recueilli par Kathleen Comte. En Guadeloupe, le climat est toujours très tendu. Les opposants à l'obligation vaccinale pour les soignants organisait une journée de mobilisation qui a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre en plusieurs endroits. La directrice de l'hôpital a dû être exfiltrée. Tension aussi dans la commune des Abîmes. Et dans cette commune, on a tiré sur la gendarmerie. Emmanuel Leclerc, un gendarme, est blessé au genou.
Oui, la balle que le gendarme a pris dans le genou aux Abîmes, la grande commune voisine de Pointe-à-Pitre, ce n'était pas de la chevrotine tirée par un fusil de chasse, confie une source à la Guadeloupe. La dernière fois que des tirs de cette nature ont eu lieu, c'était fin novembre face aux policiers du RAID, mais il n'y avait pas eu de blessés. Cette fois, les affrontements ont donc franchi un cran. En plus des jets de pierres et de cocktails Molotov, les forces de l'ordre, police et gendarmes mobiles, ont repoussé les manifestants sur plusieurs kilomètres. 6 personnes ont été interpellées. Mais on ne sait pas encore s'il s'agissait de manifestants anti-vax, anti-pass vaccinal ou de délinquants des quartiers des Abîmes qui ont encore profité de l'occasion pour aller piller, cambrioler. Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre doit tenir une conférence de presse dans les heures qui viennent. Il a évoqué déjà 3 tirs à balles réelles, Bruno, pour la seule journée d'hier. Il sera question également, vous l'avez dit, de la tentative d'intrusion au cœur du centre hospitalier de Basse-Terre avec une quarantaine de militants au total. La directrice de l'hôpital a effectivement dû être exfiltré par des vigiles.
Emmanuel Leclerc, premier syndicat de la fonction publique d'État, Force ouvrière, a donné aujourd'hui son feu vert à la signature du projet d'accord sur la complémentaire santé pour les fonctionnaires. Cela devrait permettre de garantir un accord majoritaire dans ce sujet. Allez, écoutez ceci, cela va peut-être vous rappeler des souvenirs.
Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli.
Eh oui, c'est du Goldman, mais ce n'est pas sa voix. C'est un extrait de l'album L'Héritage Goldman qui sort aujourd'hui, en l'occurrence Puisque tu pars. Cela 10 ans après un premier disque de reprise qui s'appelait Génération Goldman. Alors celui d'il y a 10 ans rassemblait des vedettes. Celui-ci, des artistes moins connus et venus d'univers musicaux différents. Maureen Suignard.
S'attaquer au répertoire de Jean-Jacques Goldman est forcément risqué. Mais Eric Benzi, l'un de ses fidèles, n'a pas résisté.
C'est plus que du plaisir, c'est un honneur.
Il a été son arrangeur pour de nombreux albums et orchestre donc cette compilation de reprises sans star derrière le micro.
Le problème des chanteurs connus, c'est que ça devient un tel chant de Goldman. Tout ce que je voulais garder, c'était que ce soit les chansons qui soient les stars.
Tu m'échappes déjà là-bas.
Des chansons que le chœur gospel de Paris s'est réapproprié, les choristes ne font pourtant pas forcément partie de la génération Goldman.
Mes parents connaissent très bien, moi un peu moins.
Jessie, 25 ans.
Mais j'aimais beaucoup ses mélodies, pas mal de morceaux qui ont été repris. C'est un peu comme des classiques, quoi.
Anne-Sophie, 30 ans, également choriste, va même plus loin.
Tout le monde sait qui est Michael Jackson dans le monde. En France, tout le monde sait qui est Jean-Jacques Goldman.
La marche était donc haute, mais Jessie se dit très fière du résultat.
Il y a vraiment quelque chose qui est assez, je pense, inédit. Comme un nouveau souffle aux morceaux. morceaux, mais en mettant toujours l'accent sur le message des chansons.
De quoi accomplir une certaine mission pour Anne-Sophie.
Transmettre un héritage et perpétuer des musiques importantes pour la culture française.
Si Jean-Jacques Goldman n'a pas participé au projet, Anne-Sophie espère l'atteindre par la musique.
Nous, ça nous honore en fait.
Éric Benzi a tout de même fait écouter le résultat au principal intéressé.
Il a trouvé ça super, il est content que les chansons dépassent leur créateur et vivent leur vie propre.
L'héritage Goldman, volume 1. Ici, je te donne, volume 1. Il y en aura donc un second. Allez, à propos de musique, dans la série, cela réveille des souvenirs chez les Quadras. Cet autre extrait. I would do anything for love. Meat Loaf, le rocker américain, vient de mourir à l'âge de 74 ans. Son album Bat Out a Veil fut l'un des plus vendus de tous les temps. Vous pouvez réécouter ses succès sur franceinter.fr. Il a aussi eu une carrière d'acteur dans le Rocky Horror Picture Show ou Fight Club. Après la musique, la lecture, les nuits de la lecture jusqu'à dimanche, parrainées par deux jeunes auteurs, François-Henri Désérable et Maria Pourchet. 5000 événements à travers la France jusqu'à dimanche pour le plaisir de lire. Il a Namour Youssef.
Donner le goût de lire, on en revient toujours là. Et pour cela, pas de meilleur parrain que le romancier François-Henri Désérable, qui a commencé par ne pas aimer lire.
J'ai découvert la littérature à travers la fréquentation d'une bibliothèque, la bibliothèque Louis Aragon à Amiens, dans laquelle je suis rentré à l'âge de 18 ans. Et en quelque sorte, je n'en suis jamais ressorti. Je sais qu'un livre que j'offre beaucoup, c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, ou Le Parfum de Suskind, D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Souvent, grâce à ces livres-là, j'ai pu faire en sorte que des gens qui ne lisaient pas se soient mis à lire.
Beaucoup de manifestations sur le thème de l'amour pour cette 6e édition. On pourra par exemple assister à une lecture musicale de littérature érotique au théâtre Pierre Cardin à Paris. À Caen, à l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine, la comédienne Isabelle Carré proposera une lecture de Passion simple d'Annie Ernaux.
C'est un texte que je ne connaissais pas et je me suis jetée dessus pour mon plus grand bonheur. Et je trouve qu'il se prête vraiment formidablement à l'exercice. C'est presque un monologue théâtral en fin de compte. C'est assez court, 80 pages à peine. Et qui parle, voilà, d'un amour douloureux, mais d'un amour passion. Ça commence comme ça. À partir du mois de septembre, l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi.
On peut piocher selon ses goûts et l'endroit où l'on se trouve. Le programme complet est sur le site des Nuits de la Lecture.
Et c'est donc jusqu'à dimanche. Dans un instant, la météo.
Moi, c'est Val, lave-linge hublot sans histoire. Après 8 ans de bons et loyaux services, la panne. Mes propriétaires m'ont abandonné. Mais heureusement, Envie m'a accueilli. Là-bas, j'ai rencontré Alex. Il apprend à réparer des appareils électroménagers. Grâce à lui, j'ai retrouvé une seconde vie et un nouveau foyer. Pendant ce temps, Alex construit son projet professionnel. Et pour ces différentes raisons, nous sommes fiers de notre parcours.
Avec Envie, allonger la durée de vie des produits et favoriser l'inclusion sociale. Envie, réparons le monde. Envie.org. Face au changement climatique, savez-vous que la nature nous propose des solutions ? La nature stocke le carbone et nous aide à limiter les risques naturels. En restaurant des dunes, nous luttons contre l'érosion côtière. En préservant nos zones humides, nous luttons contre les sécheresses et les inondations. Ce sont les solutions fondées sur la nature. Avec le comité français de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, trouvez et faites connaître ces solutions près de chez vous. Partagez-les sur uicn.fr. Agissez avec nous, pour et avec la nature.
Cet espace publicitaire a été offert par Radio France au titre de son engagement pour la transition écologique.
Voyons le temps de ce jour.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Je décrypte les petits dessins du jour. Je vois un soleil au milieu de deux nuages. Deux belles éclaircies pour cet après-midi, c'est ça?
Exactement, bon. Et les grisailles de ce matin sont peu à peu en train de s'effacer au profit du soleil et des éclaircies. Cet après-midi, le ciel sera bien dégagé sur les Pyrénées, le Jura, les Alpes, le nord de l'Occitanie et le pourtour méditerranéen, mais aussi sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche. Le temps sera plus partagé entre la Bretagne, la Normandie, l'ouest des Hauts-de-France et les plaines du Sud-Ouest, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté, avec quand même de belles éclaircies. Ces éclaircies gagneront même jusqu'au bassin parisien en cours d'après-midi. Alors quelques poches de grisailles pourront tout de même persister par endroits, notamment vers le Val de Saône, la plaine du Dauphiné ou les vallées du Massif central. Et puis sur le piémont pyrénéen, le Grand Est et le Centre-Val de Loire, l'après-midi restera bien nuageux. Quelques gouttes sont même possibles entre la Vénois et les Ardennes. Et puis quelques averses pourront aussi glisser sur le sud-est de la Corse, alors que le nord-ouest de l'île passera l'après-midi au soleil. Les températures, elles, sont en légère baisse. Le rafraîchissement s'est déjà fait ressentir cette nuit avec le retour de fréquentes gelées. Pour cet après-midi, les maximales seront comprises entre 2 et 11 degrés en général, avec jusqu'à 15 degrés entre la Corse et la Côte d'Azur. Autour de la Méditerranée, la sensation de fraîcheur sera d'ailleurs accentuée par le Mistral et la Tramontane qui souffleront jusqu'à 60 à 80 km par heure.
Sébastien Léas, Météo France, merci beaucoup. Il est 13h30.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
À la réforme du lycée depuis la rentrée 2019 en première, 2020 en terminale, s'est-elle traduite par une désaffection pour les mathématiques? Aux anciennes filières L, E, S et S dans les lycées généraux a succédé une organisation avec des enseignements obligatoires et d'autres de spécialité. Dans ce cadre, les élèves peuvent abandonner les mathématiques en première. Demeure un enseignement scientifique général dans le tronc commun, 2 heures par semaine. Mais le constat est bien là, le nombre d'heures assurées par les profs de maths au lycée a baissé de 20%. Alors le nouveau bac nuit-il aux maths? C'est notre sujet aujourd'hui. Je vous attends au 01 45 24 7000 et via l'appli France Inter rubrique Réagir. Il y a déjà énormément d'appels de profs de maths pour dialoguer avec vous. Bonjour Anne Cortella.
Bonjour.
Enseignante, chercheuse, maîtresse de conférences en mathématiques et vous êtes membre du bureau de la Commission française pour l'enseignement des mathématiques. Et bonjour Sébastien Plancheneau.
Bonjour.
Professeur et formateur de mathématiques rattaché à l'Académie de Versailles et président de l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Anne Cortella, au fond, qu'est-ce qui se joue avec cette question-là en ce moment de l'enseignement des maths au lycée? Moi, j'ai l'impression qu'il y a trois choses. Se joue la préparation d'élèves qui intégreront les filières scientifiques à la fac ou dans les écoles d'ingénieurs, la préparation d'élèves qui intégreront des filières passant pour sciences scientifiques mais où ils ont besoin de maths, et puis la culture générale et scientifique des lycéens. Est-ce qu'il y a un de ces trois points-là qui vous inquiète tout particulièrement?
À vrai dire, les trois points nous inquiètent particulièrement. D'abord, nous pensons, avec Sébastien et puis des collègues de la Commission française pour l'enseignement des maths, que les mathématiques sont indispensables à la formation du citoyen et que donc, il serait indispensable d'avoir des mathématiques dans le tronc commun du lycée.
Pardon, pourquoi les mathématiques sont indispensables à la formation du citoyen? L'histoire, on voit bien, l'éducation morale et civique, on voit bien. Les maths, pourquoi? Ça m'intéresse.
Alors déjà, pourquoi pas? Parce que c'est peut-être une idée préconçue que l'histoire, bien sûr. Ouais. Hein, mais les maths sont indispensables à la formation du citoyen parce qu'elles permettent d'avoir en tête, de développer son esprit critique et de pouvoir interpréter un certain nombre d'informations qu'on reçoit tous les jours. Partout.
Ouais.
Hein, un des meilleurs exemples, c'est ce qui se passe en ce moment avec le Covid. Et on se rend compte que beaucoup de gens ont peine à interpréter toutes les informations qui leur viennent, en fait, de modélisation mathématique. Ouais. Précise, compliquée. On leur demande pas de comprendre tout ce qu'il y a là derrière, mais avoir un certain nombre d'idées en mathématiques pourrait les aider à développer leur esprit critique. Et pas seulement sur ce point.
Sébastien Plancheneau, entrons dans le vif du sujet. C'est technique, mais je pense que beaucoup de personnes sont concernées. Je voudrais vous soumettre la question de Sandrine. Je suis maman de deux ados, actuellement en seconde, et ils vont devoir choisir les spécialités pour la première très bientôt. Ce sont des ados normaux, dit-elle, pas de grands scientifiques, mais ils sont pas perdus non plus. Et en résumé, ils ont le choix entre soit la spécialité maths, qui serait une marche un peu haute pour eux, soit rien du tout. Or, ils auront un peu besoin des maths pour les études qu'ils veulent faire, les études qui sont en botanique ou en art numérique. On est pile dans le problème qu'on rencontre depuis la réforme du lycée.
Oui, tout à fait. Alors, je dirais, les deux solutions sont peut-être, premièrement, choisir les mathématiques et s'accrocher l'année prochaine pour réussir, et en particulier peut-être en terminale, choisir l'option maths complémentaire. Et la deuxième chose, c'est d'écrire à Monsieur le Ministre pour lui indiquer le dilemme qu'elle rencontre pour ses enfants, et justement peut-être faire modifier les choses, parce qu'effectivement, nous en tant qu'association et en tant que communauté mathématique, on communique beaucoup là-dessus, mais c'est vrai que plus les parents communiqueront sur ces soucis qu'ils rencontrent au quotidien, et peut-être davantage, le ministère nous entendra sur nos propositions et revendications.
Question de Françoise au standard. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour. Je voulais recentrer le débat. Parce que pour moi, le problème, il n'est pas tant effectivement de la réforme que la raison de la réforme, notamment en ce qui concerne les maths, puisque étant enseignant, mon mari et moi, on sait très bien que le souci au niveau des maths, c'était le recrutement des professeurs de maths, et que cette réforme, elle permet d'avoir moins besoin de profs de maths, et donc de cacher le problème du recrutement.
Anne Cortella, merci pour votre appel. Anne Cortella, est-ce que le cœur du problème est ici?
Le cœur du problème est ici dans la décision qui a été prise au départ, qui est effectivement une décision de ressources humaines,
oui.
Gérer la pénurie des profs de maths. Il y a plusieurs moyens de le faire. Premier moyen, et c'est celui que nous préconisons, c'est d'augmenter le niveau moyen de la population en mathématiques et de donner plus d'intérêt à ce métier de professeur, oui. En le revalorisant avec tout un tas de choses dont vous parlez régulièrement, en particulier en ce moment avec les événements
salaires.
Et les grèves.
Oui.
Les salaires, mais pas que,
oui.
Aussi les conditions dans lesquelles les professeurs travaillent. Et le moyen qui a été choisi par ce gouvernement n'est pas celui-là, puisque ça a été de dire il n'y a pas de prof de maths, donc on va faire moins de maths au lycée. Alors, c'est un petit peu excessif, certainement. Maintenant, on a un vrai problème de recrutement.
Alors voilà, et la question que j'allais vous poser, est-ce que ce problème de recrutement est uniquement dû aux revenus et aux conditions de travail, ou est-ce qu'il révèle autre chose, un manque d'appétence des jeunes adultes pour la discipline mathématique et l'enseignement des maths?
Non, a priori. Alors, de manière générale, un manque d'appétence ou un manque de désir de faire des métiers scientifiques chez les jeunes, alors que on sait qu'avec un master scientifique, il y a beaucoup plus de débouchés qu'avec les autres masters, et en particulier avec les masters de maths et d'informatique, oui. Il y a énormément de débouchés. Donc, il y a beaucoup plus de travail que de gens qui se destinent à ces carrières-là. Donc c'est pas vraiment un manque d'appétence, c'est un manque de suffisamment de gens qui se destinent à ça, effectivement.
Question de Leïla au standard. Bonjour Leïla.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, vous nous appelez de Toulouse.
Voilà, je vous appelle de Toulouse. Vous exposez le cas de ma fille, par exemple, qui est en première cette année dans un lycée public, qui a bonne réputation à Toulouse, et donc elle s'est auto-censurée en ne prenant pas les mathématiques pour ne pas être en difficulté par rapport à Parcoursup l'année prochaine.
Et ça croise un autre message que j'ai reçu par mail. Ma fille est en seconde dans un lycée favorisé où le niveau est plutôt élevé. Elle aime les maths, c'est sa matière préférée, mais son niveau est moyen. Sa prof lui a fait comprendre que la spécialisation maths pour la première n'était pas pour elle. Niveau attendu trop haut, cadence d'apprentissage trop rapide. Nous sommes tristes à la maison de devoir faire le deuil des maths. Sébastien Planchenot, ça croise un autre appel qui est au fond le décalage entre les choix dont disposent les élèves en ce moment au lycée à propos des maths et ensuite les attendus de Parcoursup. Il y a un vrai décalage entre les deux.
Tout à fait. C'est bien un des éléments sur lequel on bataille depuis même avant la mise en place de la réforme, sur notre demande de mettre une deuxième spécialité maths qui serait plus adaptée, j'allais dire, à des personnes qui ne voudraient pas se diriger vers des études scientifiques proprement dites. Parce qu'il faut quand même pas oublier que l'objectif principal de la réforme, c'était d'éviter que la filière maths, la filière S en particulier, soit une voie générale. Donc ça, c'est une réussite, j'allais dire, par rapport à la réforme, de pouvoir former des étudiants qui se dirigent véritablement vers des études scientifiques. Mais on a laissé de côté tout un autre pas de la population étudiant, lycéen, pour pouvoir poursuivre leur cursus au niveau de l'orientation choisie.
Et sur cette spécialité supplémentaire un peu moins difficile, est-ce que vous avez l'oreille du ministère, si j'ose dire? Est-ce que vous avez bonne réception à cette proposition? Est-ce qu'il y a un dialogue possible?
Alors, le ministère refuse catégoriquement d'ouvrir une deuxième spécialité. La raison invoquée, c'est justement la complexité du choix pour les élèves, c'est-à-dire de véritablement se destiner vers quelle ou quelle filière. Et les programmes qu'on pourrait proposer, ils n'arrivent pas à avoir une vision globale sur les éléments qu'on pourrait proposer. Alors qu'on a, je pense, dans l'ensemble de la communauté mathématique, suffisamment de force et d'idées pour pouvoir proposer des choses intéressantes.
Je le disais à Anne Cortella, alors certes, les maths disparaissent des enseignements obligatoires à partir de la première, mais il y a un tronc commun d'enseignement scientifique général. Est-ce que ça compense ou pas? Heures par semaine.
Oui, 2 heures par semaine pour les 3 sciences, même on peut en compter plus, hein, si on compte mathématiques, informatique, sciences de la vie, sciences de la terre, ouais. Physique, chimie. L'expérience, enfin les chiffres de l'ADEP que vous avez cités tout à l'heure, ouais. Montrent que à peu près 6% de ces enseignements sont faits par des mathématiciens.
Ouais.
Donc on peut imaginer.
C'est beaucoup de profs de SVT en fait qui les assurent.
C'est beaucoup de profs de SVT. C'est beaucoup de professeurs qui en fait au lycée, beaucoup de professeurs de sciences qui en fait au lycée se partagent le maigre gâteau des sciences qui restent à enseigner aussi.
Mmh.
Et donc on peut ajouter que ça ne donne pas une bonne ambiance non plus dans les lycées. avec
y compris entre enseignants quelquefois.
Y compris entre enseignants, mais cette mauvaise ambiance est très développée par le choix des spécialités qui doivent se faire concurrence et pour lesquelles, eh bien, des enseignants qui savent pourtant que sur Parcoursup, si les élèves avaient choisi maths, ils seraient plus facilement pris dans certaines filières. Ben, certains collègues vont quand même se battre pour que leur science à eux ou leur discipline à eux existe dans leur établissement. C'est absolument délétère.
Question de Patrice au standard. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, j'ai été prof en lycée pendant plus de 30 ans et la réforme du lycée m'a tellement écœuré que j'ai demandé ma mutation pour un collège, voyez. La réforme Villani, elle disait qu'il fallait 8 à 9 heures de maths en première pour des élèves scientifiques. Et comme toutes les spécialités sont alignées, l'horaire, il est de 4 heures. Donc ça ne le sait pas du tout. Le contenu ne tient pas dans l'horaire. Et puis d'autre part, les mathématiques, c'est une discipline cumulative. Et on passe de classe en classe sans forcément avoir le niveau. Et du coup, certains élèves arrivent à avoir un niveau catastrophique. Moi, maintenant que je suis en collège, je vois des élèves qui savent pas multiplier, diviser par 10, des choses de base. Tant que ces choses-là sont pas acquises, on peut pas faire les programmes.
Alors, pardon, ces lacunes-là, c'est pas la réforme du lycée. Elles viennent d'où, de votre point de vue? Et puis, je soumettrai cette remarque à nos deux invités, Patrice.
Alors, dans le rapport Villani, il préconisait qu'en lycée, on réconcilie certains élèves faibles avec les mathématiques. En pensant que justement beaucoup de gens qui se dessinaient à être professeurs des écoles n'étaient pas des scientifiques et qu'il fallait quand même qu'ils aient un niveau minimum en mathématiques pour bien enseigner les mathématiques en primaire. Je pense que ça c'est un premier problème. Et le problème aussi est le fait qu'il n'y a aucun filtre, les élèves passent d'année en année sans avoir le niveau. Et il y a rien qui est fait pour y remédier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le niveau, et ils cumulent les lacunes, c'est tout.
Anne Cortella, sur cette question.
Oui, sur le problème des enseignants de premier degré.
Oui.
Effectivement, la réforme va amplifier le problème, puisque un certain nombre d'élèves arrêtent les maths, donc on l'a dit, en arrivant en première, mais du coup, ils ne seront pas évalués au bac là-dessus, et ils arrêtent finalement en novembre, de la seconde.
Ouais.
C'est des élèves qui étaient déjà en difficulté et qu'on ne va pas réconcilier effectivement, mais qui vont peut-être vouloir être profs des écoles. Et on arrive à devoir les réconcilier avec les maths au moment où ces élèves vont arriver devant les... où ces élèves, donc futurs profs,
voilà,
vont arriver devant leurs
ouais.
élèves.
Ouais.
Et on est obligé de mettre en œuvre beaucoup de formations continues. Il y a eu des efforts fait suite à Torossian Villani sur la formation continue des enseignants du premier degré, mais ça n'est pas suffisant. Le monsieur qui a parlé l'a dit, c'est cumulatif les mathématiques, mais ça se pratique aussi. Et quand on arrête les maths et qu'on ne les pratique pas, on les oublie beaucoup plus que, par exemple, le français... Ou d'autres choses
disciplines.
Qui, de toute façon, sont pratiquées au quotidien.
Je voulais garder les dernières secondes de cette fraction de l'émission pour vous parler, Sébastien Planchenot, des épreuves de spécialité qui se passent après les vacances de printemps, là, pour le bac de cette année. Votre association demande leur report dans le contexte de l'épidémie. Pourquoi cela ?
Alors, tout simplement parce que, au vu des conditions actuelles, il est très difficile pour les enseignants, mais également pour les élèves, d'avoir réussi à suivre l'ensemble du programme qui sera demandé aux épreuves d'examen.
Oui.
Sachant que déjà, sans la situation actuelle, on demande aux élèves d'avoir pratiquement 80% du programme vu au mois de mars, ce qui est déjà pratiquement impossible. Donc là, c'est impraticable, et donc du coup, on ne souhaite pas mettre nos élèves face à la difficulté encore plus grande vu de la situation.
Et vous avez bon espoir d'être entendu ou c'est peine perdue?
C'est-à-dire que là, il y a l'ensemble de la communauté, donc l'ensemble des associations de spécialistes qui sont favorables à cette situation, ainsi que l'ensemble des syndicats. Donc nous espérons qu'on entende pour une fois l'ensemble du terrain pour pouvoir modifier ces dates.
Merci à tous les deux, Sébastien Planchenot, Anne Cortella, d'avoir participé à cette émission. Et pardon à tous ceux qu'on n'a pas pu prendre au standard. Ce sujet, manifestement, mobilise beaucoup. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Les sénateurs enquêtent sur la concentration des médias. Est-ce que, en regardant dans l'histoire, on peut trouver un exemple intéressant?
Le papivore, Robert Hersant.
Parallèle Hersant-Bolloré tout à l'heure dans le vif. Le feuilleton, dernier moment avec les compagnons du devoir. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Un vigneron dans C'est une chanson à la veille de la Saint-Vincent, saint patron de celles et ceux qui cultivent la vigne. Émile Codins, qui fait un carton notamment sur le réseau social TikTok, mais sur d'autres réseaux aussi, il vient publier Le vin, ça se partage aux éditions des Équateurs.
Un petit livre de vulgarisation viticole dans lequel Émile Codins, 24 ans, second de chef d'une exploitation du Val-de-Loire, nous donne ses conseils pour bien choisir un vin, le décanter, le déguster. Il nous explique aussi le débourbage, le levurage, comment on fabrique le rosé, ou pourquoi les bouteilles de vin ont un fond creux, pour qu'elles tiennent. Des infos qu'il donne également dans des vidéos très joyeuses d'environ 30 secondes sur le réseau TikTok. Il a créé son compte il y a 18 mois. Celui-ci rassemble aujourd'hui plus de 526 000 abonnés, c'est pas mal. Et c'est d'une chanson d'Aurel San qu'il a choisi de me parler.
Depuis que j'écoute vraiment de la musique et je porte un intérêt à la musique, j'écoute Aurel San. Il est génial, il utilise des phrases simples qui parlent à tout le monde. Et j'adore ça. Des répétitions, parfois il va dire 5 fois le même mot d'affilée et ça impacte. J'adore ce qu'il fait, j'adore ce type et j'espère qu'il s'arrêtera pas tout de suite.
La personnalité d'Aurel San, elle compte autant que ce qu'il rappe pour vous ?
Ouais. C'est un personnage qui, pour moi, n'a jamais changé. Quand on le voit, quand il parle, quand il rappe, il reste la même personne. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il est jamais entré dans un rôle, qu'il est toujours resté lui-même et qu'il aime faire de la musique, il aime faire du rap et il aime surtout raconter les choses que lui vit et qu'il a vécu surtout. Partager son désarroi, sa partie sombre, c'est drôle parce que voilà, nous en tant qu'auditeurs, on se reconnaît en lui.
Je suis dans le premier Mario, à chaque fois je crois que j'ai fini le jeu, ça repart à zéro. En plus rapide, en plus dur, je devais être plus mûr, j'ai dû me tromper de futur. J'aimerais retrouver la magie du début, rien ne fonctionne quand le cœur n'y est plus. Ça fait mal à la fierté, j'ai du mal à l'admettre, mais j'ai jamais été aussi perdu. Le monde est un PMU. Où n'importe qui donne son mauvais point de vue, où la télé passe des infos déjà vues, pendant que la radio joue des sons qu'on écoute même plus. J'essaye de trier entre les snobs pointus et les mongols incultes, je sais plus où cliquer. J'essaye de fitter, rester d'actualité, sans devenir ma propre télé-réalité. Je veux pas rester figé, piégé dans mon personnage comme une prise d'otage à Disney. Mal vieillir comme un vieux punk, quand tu crois que t'es Bart mais t'es Monsieur Burns. Je suis pas chez moi dans la capitale, je continue d'écrire sur une ville où j'habite pas. J'essaie d'être un homme bien mais je suis plutôt moyen. Je crois que je suis juste un génie du mal. Je regrette.
Et ce titre, c'est San, Frédéric.
Et c'est la première plage du troisième album studio d'Aurel San, 2017, La fête est finie.
Cette chanson-là, c'est ma préférée parce que chaque phrase qu'il peut dire, on a l'impression qu'on est en train de le vivre. Il a un sentiment de solitude, il a un sentiment que les autres le regardent d'une manière totalement différente depuis qu'il fait de la chanson. Et je vais dire, peut-être à ma petite échelle, certaines phrases où j'ai l'impression qu'il raconte ma vie, quoi.
Il parle du succès.
Il parle du succès, ouais, il parle du fait qu'il n'a pas forcément l'habitude de gérer ça. Et puis on a une espèce de compassion aussi à travers toute cette musique, parce que ce gars-là, on a envie de l'aider, c'est marrant, on a envie de l'aider, alors qu'en fait il peut très bien s'aider tout seul. Et c'est vraiment ma préférée parce que c'est bien écrit, parce qu'elle est très crescendo, c'est-à-dire qu'on commence doucement, et ça monte, ça monte, ça monte, on se prend une claque vraiment pendant toute la musique. Chaque fois que je l'écoute, de toute façon j'ai des frissons. Mais c'est vrai que... on comprend avec cette musique-là qu'il est dans le noir quand il parle de les enfants de son frère, en disant que lui, il n'est pas capable d'en élever, il est déjà même pas capable de s'élever lui, et donc il rentre dans un rôle de tonton, et je trouve ça génial comment il raconte ça. C'est beau et ça me prend les tripes quand je l'écoute.
Je pourrais plus m'enfuir, mon frère a 2 enfants, je veux les voir grandir. Je veux plus faire semblant, plus jamais mentir. Je suis déjà fou, autant rester dans le délire. Hein, je serai celui qui fait une blague avant de mourir. Celui qui part dans un fou rire. Hein, je veux laisser mon propre souvenir. Pas faire du sou, le mec à la mode en pourri. Hein, les temps changent, les gens changent, mais je m'ennuie vite.
Si vous deviez parler de cette chanson avec les mots de l'œnologie.
La longueur, parce que cette musique est longue et on reste pas sur sa fin. Quand on met du vin dans sa bouche, on est content quand ça dure longtemps et que les arômes ne partent pas tout de suite. Et ben là, c'est pareil avec la musique. Et après, oui, il y a de la structure. Il y a du cœur, il y a de l'âme. Comme dans un vin, quand on se retrouve face à une bouteille, on a de l'émotion.
C'est pas du gros rap qui tâche.
Non. Non, non, ce serait un vin, ce serait plus un rouge de Loire. On n'est pas sur un vin à 15 degrés. Un vin rouge assez léger, où il y a une partie sombre, mais pas trop sombre.
Un Touraine.
Aurel San part 3, le dernier volet de la saga. San, ça veut dire 3. San, ça veut dire monsieur. San, j'ai mis la moitié de ma vie pour savoir ce que je veux. La fête est finie.
On pourrait jouer à ça, comparer chaque titre à un cru différent, Frédéric Pommier.
Nous avons entendu un Touraine.
San, d'Aurel San, c'est ça le Touraine, et c'était donc le choix d'Émile Codins, Frédéric.
Vigneron, TikToker et auteur du livre Le vin, ça se partage, c'est publié aux éditions des Équateurs.
Bon week-end. Le feuilleton dernier moment à la maison des compagnons du devoir de Pantin, près de Paris. Après le Tour de France, Sarah Guibaudot s'intéresse à une autre particularité de la formation de ces jeunes artisans, le chef-d'œuvre. Projet de fin d'études dans lequel ils mettent leur savoir-faire et leur passion. Et autre sujet de conversation, qu'est-ce qu'il reste de la formation une fois entrée dans la vie active? Dialogue avec Guénaël qui nous montre plusieurs travaux exposés à la maison de Pantin et avec Maurice.
Donc après avoir réalisé un Tour de France, donc un Tour de France c'est en moyenne 5 ans, ça varie selon les métiers, la personne va demander à devenir compagnon. Vous avez une très grosse étape, un moment très important qui est le travail de réception pour devenir compagnon. Ça permet de se confronter à ses compétences métiers et aussi de se confronter à soi. Et donc c'est un moment qui est très important et qui fait énormément grandir. Il y a un petit peu de pression, je vous le cache pas. Je pense qu'on en garde un souvenir toute sa vie de ce passage-là. Et du coup, ben, parfois, quand vous voyez le soir de 20h à 22h un jeune travailler, c'est peut-être pour réaliser sa pièce, entre guillemets, une sorte de pièce de fin d'études. Donc à l'accueil, vous avez différentes pièces que vous pouvez voir.
Je vois des fauteuils, je vois un escalier miniature, un canapé.
Là, vous avez une paire de bottes qui a été réalisée par une cordonnier bottier. Cette paire de bottes, c'est une paire de bottes traditionnelle de samouraï. Une partie, c'est de la broderie représentant un dragon. Elle a réalisé les protèges tibias. Alors pour réaliser la maille, elle a assemblé une à une toutes les petites mailles de fer. Et donc ça, c'est une pièce déjà qui est super belle. Et la personne qui a réalisé ça a mis pratiquement 600 heures de travail.
Et après tout ce parcours, quand les compagnons vont créer leur entreprise ou s'engagent dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'il en reste? Alors bien sûr, on peut rester formateur, mais est-ce qu'il en reste un esprit, un réseau? On est compagnon à vie, qu'est-ce que ça veut dire?
On est compagnon à vie et on donne ce que l'on peut donner avec le temps que l'on a. Là, vous avez des compagnons qui sont formateurs. Demain, ils vont se sédentariser. Ils vont peut-être passer une fois par mois, peut-être moins, peut-être plus, soit pour donner des cours à des jeunes, soit juste pour leur dire bonjour et voir comment ça se passe.
Maurice Thury, je suis compagnon plombier, compagnon sédentaire.
Sédentaire, ça veut dire que vous avez fini votre Tour de France, c'est ça?
Tout à fait, ouais. Donc on n'est plus itinérant, on se sédentarise. Et derrière ça, j'ai lancé une activité de plomberie, chauffage, décoration d'intérieur. Aujourd'hui, les compagnons m'ont sollicité pour venir animer des formations et continuer à transmettre mon métier pour les apprentis.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, de vous former chez les compagnons par rapport à une formation classique?
J'ai passé toute ma scolarité en pension déjà. Donc j'ai fait tout mon collège en pension. Et puis pendant mes vacances, je partais en colonie de vacances. Donc quand j'ai découvert les compagnons, j'ai retrouvé un peu cette ambiance de pensionnat et en même temps colonie. Ensuite, un des gros avantages, c'est que les compagnons vous ouvrent des portes en voyageant vers des entreprises diverses et variées. Et puis apprendre à se dépasser aussi. Chose qui va nous servir après dans la vie, notamment quand on quitte le Tour de France et qu'on rentre dans une vie, active et puis en sortant de cette bulle compagnonique. Ouais.
Oui, ça doit faire bizarre de quitter la bulle compagnonique, justement.
Effectivement, ça nous fait quelques petits chocs thermiques, en reprenant une expression du métier. Il faut s'insérer dans la société. C'est un autre chemin qui se dessine, tout en gardant un pied avec les compagnons et la jeunesse, mais c'est pas si simple que ça, ouais.
Est-ce qu'il y a un esprit compagnon qu'on reconnaît ensuite quand on travaille à l'extérieur, dans des entreprises? Est-ce que vous vous reconnaissez entre vous?
L'état d'esprit déjà, la façon d'aborder le travail. Après, on va avoir des signes de reconnaissance. Par exemple, les compagnons ont la possibilité de porter des joints.
Aux oreilles, vous avez des boucles aux oreilles, c'est ça, des petits anneaux, un à chaque oreille. Et ça a une signification?
C'est un peu un signe d'affranchissement dans le métier, c'est un signe de liberté, ce qu'on va retrouver aussi chez les gens du voyage, chez les marins, les pirates. Puis après, on va reconnaître les personnes qui sont éduquées dans le métier, dans la façon d'aborder un chantier par exemple. Côté un peu plus soigné, un peu plus investi, un peu plus de rigueur, il y a quelque chose qui va vibrer différemment, qui va se dégager.
Le feuilleton, comme chaque semaine, une semaine dans leur vie, est à réécouter sur franceinter.fr. Les épisodes également disponibles sur les plateformes de podcast.
France Inter, le 13-14.
La commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias poursuit ses travaux. Audition la plus remarquée cette semaine, celle de Vincent Bolloré. C'était mercredi. Jean Lebrun, dans le vif de l'histoire, la tentation vous est venue de faire un rapprochement entre les aventures de Bolloré et celles de Robert Hersant autour de 1980.
Tentation facile. À cette date, Robert Hersant possédait France Soir. C'était alors un journal. Le Figaro, qu'il doublait à sa droite par l'Aurore et le Figmag, et en sus une douzaine de quotidiens régionaux, si vous croyez, disait-il, que j'ai le temps de les compter chaque matin, on l'appelait le papivore. Les Bolloré, eux, ont certes commencé dans le papier à cigarettes, le papier pour la Pléiade, mais Vincent, pour faire de l'entreprise familiale un empire, s'est comporté en carnivore, omnivore, achetant à 360 degrés autour de lui en tout domaine. Mais effectivement, il en est venu de plus en plus aux médias, Canal+, CNews, Europe 1, le JDD. Et une fois son absorption d'Hachette achevé, et avant la correction espérée des autorités européennes de la concurrence, son conglomérat de maisons d'édition pèsera extrêmement lourd, 70% de l'édition scolaire par exemple.
Il a déclaré au Sénat, notre intérêt n'est pas idéologique, c'est un intérêt purement économique.
On n'a pas porté assez attention au sauvetage qu'il a opéré d'un vieux titre des nationalistes des années 20 et de la guerre d'Algérie, la France catholique. Bolloré appartient à cette famille d'esprit avec une variante, Bruno. Catholique et bretonne toujours. À 17 ans, son oncle Gwenaël, qu'il a raison d'admirer, vendit son cheval pour rejoindre depuis Roscoff, en bateau, la France libre. Alors Robert Hersant, c'était une autre origine. Collaborateur notoire, dès la première heure, il était du genre à vous dire « Votre Jean Moulin, tout de même, enfin il a tout raté ». Son suicide à Chartres après la défaite, son arrestation à Caluire.
Eh ben dites-moi, pourtant Hersant avait réussi à se glisser dans l'univers politique et même à devenir député, ce dont Bolloré ne s'est jamais soucié.
Oui, mais il ne serait pas venu à Hersant l'idée d'aider un seul candidat, qui plus est à l'extrême droite, un Éric Zemmour par exemple. Auprès de Giscard, Hersant soutenait les Chiraciens, auprès de Chirac les Giscardiens. Ces journaux promouvaient des candidats qui, une fois élu, lui constituait sa part de marché au Parlement. Il s'était même fait élire dans une circonscription de l'Oise. Alors une fois celle-ci devenue un peu malsaine, il avait passé un marché avec le président de l'Assemblée de Garfort, nommé le député-maire de Neuilly-Peretti au Conseil constitutionnel et hop, il va me refiler son siège. Pas de chance, celui-ci était occupé par la suppléante de Peretti, Florence Darcourt, une aristocrate vieux style, ancienne présidente des femmes gaullistes, qui, déclarant que Neuilly n'était pas à vendre aux puissances d'argent, opposa la plus fière des résistances et mit Hersant sur le carreau. Alors il fut bien vite consolé par un fauteuil au Parlement européen, figurant sur la liste de Simone Veil, qui déclara « Il y a dans l'entourage de Mitterrand des personnes qui ont eu un comportement pire pendant l'occupation ». Il faut noter que Mitterrand ne s'est jamais opposé personnellement, vraiment, à Hersant. Les grands prédateurs se reconnaissent.
Oui, mais ces parlementaires socialistes arrivés au pouvoir cernèrent Hersant.
En 84, après des débats passionnés, ils votent une loi ad hoc qui fixe un seuil de concentration maximale pour les quotidiens, pas plus de 10% de la diffusion totale. Une commission pour la transparence de la presse est installée, février 85. Les éditeurs devront lui communiquer leurs comptes, l'origine de leurs capitaux, et elle devrait intervenir à l'occasion de chaque rapprochement. Elle est présidée par l'ancien sénateur Caillavet, pionnier de nombreuses lois d'avenir, dont d'organes, dépénalisation de l'homosexualité, etc. Il est généralement dit que Caillavet incarne les idées de demain, c'est pas le cas ici. La droite gagne les élections législatives de 86. La commission Caillavet est dissoute et la loi sur la concentration abolie.
Et qu'en est-il de la fin d'Hersant ?
En réalité, l'Empire Hersant manquait toujours de liquidités, était grevé de dettes, d'hypothèques, c'était un écheveau juridique dans lequel Hersant, à sa mort en 95, ne se retrouvait pas lui-même. Ses héritiers mirent ensuite le plus grand soin à le faire s'effondrer sur eux. Chez Vincent Bolloré, c'est autrement solide, un granit catholique, breton, toujours. À l'occasion de ses 70 ans, le mois prochain, il donnera encore plus de responsabilités à ses enfants. Ce sera la 7e génération.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire juste avant 14h tous les jours.